La force centripète, la force centrifuge, ça réfère un peu à deux rôles, deux missions de l'Église locale. Autant pour les soins à l'intérieur de l'Église locale que pour ensuite quels sont les soins qui peuvent être offerts en dehors de l'Église locale. Sauf que je me suis joué tout, j'ai tenté de remettre, c'est quelque chose que j'ai déjà maîtrisé, j'avais des feuilles, et quelque chose que j'ai tenté de remettre la main dessus que je n'ai pas trouvé. Il va falloir que je fasse toute la revue de tout ce qu'il y a de papier chez nous à un moment donné, mais m'a suffisamment quand même suffisamment de dire de principe pour dire ben, au pire si j'ai pas, c'est j'ai d'autres choses pour couvrir. Ça part du fait que avant, il y a quelques éléments de quand même communs là-dedans, ou à savoir, avant de penser que le Seigneur peut rajouter des âmes à l'Église, ou que l'Église puisse aller vers ceux du dehors, il importe de réfléchir sur quels sont les soins que l'on peut se donner mutuellement à l'intérieur de l'Église. Quelqu'un, je me rappelle, Madame Lois Chang, qui nous enseignait lorsque j'étais à l'Institut biblique, et qui nous disait, si on peut développer des attitudes qui sont aidantes entre chrétiens, entre nous, prendre soin les uns des autres, peut-être que on aurait moins besoin de recours à des services à l'extérieur. Et ce n'était pas une condamnation vis-à-vis les services qui peuvent exister, puis vis-à-vis l'aide qui peut exister. Si on ressent le besoin de rencontrer un travailleur social, de rencontrer un psychologue, c'est pas mal en soi. C'est possiblement parce que ça comporte quand même certaines limites. Ils vont rencontrer des limites. Ils peuvent arriver à nous aider beaucoup à comprendre qu'est-ce que l'on peut vivre, parce qu'ils ont étudié dans les comportements humains, ils sont spécialisés là-dedans, sont spécialisés dans les différentes dynamiques familiales ou autres. Il y a toutes sortes d'approches, de toute façon, émotivo-rationnelles, orientées à la solution. Sont toutes meilleures, ou selon ce qu'on entend, sont autant meilleures l'une que l'autre. Mais ça comporte quand même certaines limites, parce qu'on ne peut pas aborder avec eux, ou ils n'aborderont pas avec nous, la dimension spirituelle, la dimension au niveau de la parole de Dieu. Et c'est un sujet qui est plutôt tabou maintenant dans notre société, et dans les différents services d'aide, c'est un sujet qui est plutôt tabou, c'est inconfortable avec ça. La plupart ont suivi une formation avec une approche humaniste qui, du même coup, a tendance à faire abstraction de Dieu, mais si on arrive, c'est beaucoup plus de mettre l'enfant sur on doit croire dans l'individu. Donc, c'est font une bonne job, mais ils comportent certaines limites. Mais qu'en est-il maintenant des soins qu'on peut se donner ou que les membres de l'Église peuvent bénéficier au sein même de l'Église si on ne porte pas un jugement ou si on n'exclut pas si c'est à l'extérieur. Mais l'Église, elle est responsable de deux choses. Elle est responsable du bien-être de ses membres et elle est responsable de la perdition de ceux qui sont en dehors, de ceux qui sont à l'extérieur, de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, il y a comme deux responsabilités, le bien-être de l'Église, l'épanouissement de chacun des membres, et en même temps, que l'Évangile soit prononcé, que soit annoncé autour de nous. Mais il faut savoir que quand on s'en va vers l'évangélisation pour tenter d'intéresser des gens à la parole de Dieu, leur enseigner la parole de Dieu, il faut comprendre que ces gens-là, par le fait même, ils sont susceptibles, par après, de se joindre à une église. Et donc, de recevoir les soins de l'église, à l'intérieur même de l'église. Donc, comment on pourrait arriver à favoriser qu'il y ait des soins qui soient donnés à l'intérieur de l'Église, qu'il y ait des qualités sur le plan relationnel entre nous, pour qu'on arrive à être bien ensemble. Je goûte vous lancer comme ça une question plutôt ouverte, à savoir, d'après vous, qu'est-ce qui, par exemple, je pensais d'avoir apporté, j'ai vécu beaucoup de contrariétés depuis ce matin, là. Je pensais d'apporter des feuilles ici pour qu'on puisse prendre des notes, puis c'est exposé des dynamiques, mais il y a des imprévus des fois qui arrivent, et ça fait juste comme tester mon caractère, et ça me permet de voir que je suis pas dans la même disposition de cœur que le Seigneur Jésus-Christ parfois qui a eu envers tous les gens autour de lui. Alors, donc, ça veut dire, je n'ai pas ces feuilles-là, mais j'avais pensé une question au verbe. D'après vous, si on avait à nommer par cœur, comme ça, qu'est-ce qui pourrait être nuisible, néfaste pour le bien-être des membres dans une église? Comme ça, allez-y. Qu'est-ce qui pourrait être qui pourrait nuire au bien-être des gens dans une église? L'indifférence, ouais. Et comment ça se manifeste dans l'indifférence, hein? Portant pas attention aux autres. OK. Jacin? Le manque d'amour. Et ça va bien avec l'indifférence aussi. Le manque d'amour, l'indifférence, de ne pas porter attention aux autres. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Comment? Il manquerait d'unité. Comment ça? Si on voit le contraire, quelque chose qui est nuisible. Ou bien si par exemple, qu'est-ce qui pourrait nuire à cette unité-là, selon Jacques, c'est l'égocentrisme, mais aussi de les passions, les disputes, les discussions, les disputes au niveau d'opinion, d'idées, puis chacun tiendrait à son point de vue, et qu'à la limite, il se dessine des clans. Hein, pour telle chose, on comprend que ça s'annulerait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on nommerait qui pourrait nuire au bien-être de l'Église? Le péché, mais OK. Oui, la présence du péché, comme dans l'Église, qui ne soit pas nécessairement toujours manifeste, mais il y a présence du péché. Donc, vous avez un membre, ça peut affecter toute l'Église. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait? Le favoritisme, parce que quand on parlait tantôt, j'entendais l'indifférence, porter attention, ça veut dire qu'on pourrait être plus porté à attention à certaines gens, c'est plus naturel, et moins à d'autres. Et là, c'est là que des gens pourraient être bénéficier moins de soins que les autres, oui? Négliger le don que le Seigneur nous a donné. OK. Donc privé, ça serait donc les autres seraient privés de le don parce que on ne serait pas entièrement au service de l'Église. OK. Ça fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? D'après vous? La médisance. La médisance. Le jugement. OK. OK, ça c'est sûr. Il manque des membres. OK. Donc, à ce moment-là, si on entre dans une indifférence parce que des gens ne viennent pas, voyez-vous que ça se croise, une indifférence vis-à-vis du fait que des gens ne viennent pas, que ça ne fait pas partie de notre peine, de notre fardeau, ça veut dire que ça affaiblit l'ensemble de l'Église. OK. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous viendrait à l'esprit par rapport à qu'est-ce qui pourrait nuire au bien-être de l'Église, au bien-être des membres? La jalousie? Qui a nommé ça? La jalousie? Oui. La jalousie, la jalousie, c'est ça tue, hein, c'est... est-ce que c'est pas Caïn qui a tué son frère Abel par jalousie, hein, ça... OK. Comment ça se reflète la jalousie dans les relations? La jalousie pourrait faire que quelqu'un va diminuer les autres pour se relever. Il semble que dans. Ben, il semble pas, c'est constaté. J'ai entendu des histoires assez difficiles au niveau, par exemple, une jeune fille qui était jalouse d'une autre jeune fille parce qu'elle croyait qu'elle pourrait se faire des amis, hein, plus facilement, avoir des chums. Et cette jeune fille-là, qui était jalouse d'une autre jeune fille parce qu'elle pensait qu'elle pouvait prendre des chums ou qu'elle n'en aurait pas, elle s'est mise à la dénigrer. Et s'est tourné en intimidation, harcèlement, au point où la jeune fille qui subissait l'intimidation, l'harcèlement, la maltraitance, est entrée dans des comportements autodestructeurs. C'est vrai que c'est pas rien la jalousie, que le mal que ça peut produire. OK, c'est très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous vient à l'esprit qui pourrait nuire au bien-être? L'indépendance, comme ça, ouais, ok, ok. Non, 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 on comprend. Donc dans notre service. Bien, OK. Et le contraire de ça sera l'entraide et ça serait donc la collectivité, hein, quelque chose qui est collectif. OK. J'avais quelque chose. OK. On rejoint. Mais premier mot que j'ai entendu couvre beaucoup de choses quand Alain dit le mot indifférence. Hein. J'ai eu en cadeau, pas jeudi de cette semaine, l'autre jeudi, dans un voyage à Montréal, c'était une journée plutôt difficile, parce que une personne, justement, ne portait pas attention ou refusait d'entendre ou refusait de voir des choses. Et j'ai eu un cadeau le soir, une statuette que c'est trois petits singes. Et il y en a un que j'écoute pas, et je ne parle pas et je n'entends pas. C'est-à-dire, je n'entends pas, je ne vois pas et je ne parle pas. Donc, quand on parle d'indifférence, ça pourrait être que d'une façon donc sélective, je m'intéresse à des gens et puis pas à d'autres. C'est pas rien, non. C'est peut-être s'il y avait quelque chose qu'on pourrait retenir là, dans notre entretien, c'est comment est-ce que je pourrais que par favoritisme ou que je sois plus disposé à entendre, à voir et à parler avec des gens avec qui je m'adonne le mieux et ne pas avoir une préoccupation de la même égalité, le même champ d'intérêt pour tous les membres. Et ça, c'est assez tragique comme situation. Et c'est ce qui fait ça va avec la dimension aussi de favoritisme. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on verrait qui pourraient être une nuisance? Marjolaine, as-tu d'autres choses que tu pensais? Comment? Oui, c'est quoi? OK. Oui. Mais c'est une base individuelle. Vous savez tout aussi. Mais donc sur le plan personnel, ça serait ça? Ou plan... Oui. OK. Sur l'ensemble. Oui. OK. Donc, ici, c'est dans tout le sens des quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités. Et pour que la vie. Pour qu'on ait à cœur, puis tu sais, c'est humblement que moi je le nomme actuellement, là, pour qu'on ait, avant d'avoir à cœur les gens du dehors pour qu'ils viennent au salut, puis que ça fasse l'objet de toute notre pensée, de nos actions, de nos priorités, il y a quelque chose qui doit être ramené au centre de la priorité au sein même de l'Église locale. C'est ça que tu nous dis. Il faut que ça soit le seul objet de notre au centre de notre vie. au niveau du service pour Jésus-Christ, mais le service aussi pour son Église. Et ça, là-dessus, je l'entends bien et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans à réfléchir aussi en termes de priorité. Est-ce que ça se pourrait qu'au début de notre vie chrétienne, tout ce qui importait pour nous, notre champ d'intérêt, c'était notre vie d'Église, le prendre plaisir à notre vie d'Église, puis bien sûr, prendre plaisir pour le salut des âmes autour, puis à quelque part, avec le temps, que la vie d'Église soit devenue une partie parmi d'autres, un champ d'intérêt parmi d'autres, et non pas le premier champ. Quand on parle de priorité, c'est un peu ça. Et si c'est le cas, on s'approche un peu plus de la religion. Puis on a une facilité comme être humain à devenir religieux et être chrétien correct en apparence quand on est ici le dimanche ou le mercredi. Puis que le reste de la semaine, c'est quoi qu'on a comme vertu chrétienne ou quoi que ce soit. Ça interpelle, n'est-ce pas? Et on entre dans ce questionnement là, dans cette réflexion là, pour arriver à un bien-être à l'intérieur même de l'Église. Faut que l'Église fasse partie de notre préoccupation à l'intérieur même, avant de penser à aller vers ceux du dehors. Parce que selon la manière qu'on se traite entre nous dans l'Église, c'est la manière qu'on va pouvoir traiter les gens qui viennent du dehors. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils ne seront pas chrétiens, ou ils ne seront pas éduqués encore chrétiennement, pour ne pas dire des fois qu'ils n'ont pas encore été entraînés à être un peu, même à être hypocrites, tant qu'à ça. Mais on les reçoit à l'état où ils sont lorsqu'ils viennent au Seigneur, et comment on peut arriver à les accueillir. Donc, dans Romains chapitre 13, il y a quelques textes ici. Romains chapitre 13, il y a sept points ici que j'avais déjà notés lors d'une présentation brève de notre frère Homer Payne. Et il y avait un au chapitre, Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, etc. Et puis, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, un premier point. Ici, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les autres. Donc, on a une dette. La seule dette qu'on peut avoir envers Jésus-Christ, pour le fait qu'il nous a aimés, hein, parce qu'il dit ne devez rien à personne, la seule dette qu'on doit avoir, c'est celle d'aimer les autres, d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs. Donc, en rapport avec les autres chrétiens, le premier devoir, pour dire, ce serait d'aimer nos frères, nos sœurs. Ici, dans Romains chapitre 14, verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, hein, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose. Et ici, il y a toute la dimension par rapport à des opinions, des choses qui sont plus importantes pour l'un ou pour l'autre, et qu'on pourrait être porté, la dimension, le frère est plus faible, l'autre qui est plus fort, peu importe, mais ils amènent à celui qui est fort, celui qui est spirituel, au fond, dans un premier temps. C'est celui qui fait preuve, n'est-ce pas, de tolérance. Donc, une attitude qui est plutôt correcte, positive, les uns envers les autres, une attitude qui est accueillante. Au verset, chapitre 14, verset 1, accueillez celui qui est fait dans la foi. Le mot accueil, puis on va le voir un peu plus loin encore, la dimension d'accueillir, mais le mot accueil est le premier pas. Le premier pas dans ce qui concerne les relations que nous avons les uns avec les autres. Tout commence par l'accueil. Remarquez quand vous arrivez à la, par exemple à la pharmacie et la personne vous accueille. C'est la première chose. Ça commence toujours par l'accueil. Et souvent ça va venir teinter le rapport, le reste. L'accueil. Vous allez rencontrer votre médecin et vous allez voir si, par exemple, vous entrez dans son bureau, puis il continue d'écrire des choses, puis il ne se lève pas les yeux. Vous allez juger de son accueil. Vous allez dire, oups, j'ai l'impression de le déranger. Hein? Donc, l'accueil est le premier pas, la première étape lorsqu'on est en relation avec les autres. Donc, ça parle beaucoup de l'attitude qu'on peut avoir sur l'importance qu'on accorde à la relation qu'on va entreprendre avec une personne. Et je travaille avec les intervenants sociaux dans le cadre des formations. Quand on parle de l'accueil, on prend pour acquis qu'ils le savent déjà. Mais on se rend compte que quand on vient pour parler d'accueil vis-à-vis une personne qui a un problème de santé mentale, qui a un trouble de personnalité limite, qui a un problème au niveau de dépendance, de consommation, on va toujours se réfléchir, se savoir comment je le reçois. Est-ce que j'ai une ouverture vis-à-vis cette personne-là? Parce que si je n'ai pas d'ouverture vis-à-vis cette personne-là, si à quelque part je suis plein de préjugés, il n'y aura pas cette alliance, il n'y aura pas cette relation qui va se bâtir avec cette personne-là. Donc, est-ce que ça se peut que, parce qu'on a nommé qu'on pourrait être indifférent, parce qu'on a nommé qu'on pourrait avoir du favoritisme, est-ce que ça voudrait dire que des fois, quand on s'accueille les uns les autres, que des fois on pourrait avoir un accueil chaleureux, enthousiaste, heureux et content avec certaines personnes, puis un accueil plutôt formel avec d'autres, parce qu'on les aime moins, parce qu'ils sont moins comme on voudrait qu'ils soient. Mais, tu comprends-tu? C'est pas rien quand l'apôtre Paul parle de s'accueillir. Ça veut dire c'est sans réserve, sans préjugé, sans arrière-pensée, c'est librement et généreusement. Et ça nous parle, ça nous interpelle, n'est-ce pas? On va toujours avoir des gens avec qui on pourrait être un peu plus à l'aise, d'autres moins. Ce qui est important, c'est de prendre conscience et d'ajuster nos sentiments, nos émotions, notre position devant le Seigneur par rapport à ça. Il y a un côté humain qui revient en surface très facilement. Mais si on demeure vigilant, si on demeure attentif à analyser, à essayer de comprendre quelle est mon attitude lorsque j'entre en relation avec mes frères, avec mes sœurs, quelle est mon attitude, ou bien non, avec des gens que je côtoie, quelle est mon attitude, quel est mon accueil, ça va déterminer la nature de la relation, ça va déterminer comment je peux être en relation avec cette personne-là, ma volonté d'être en réaction, en relation, et la richesse que ça pourrait représenter de pouvoir être en présence mutuellement. Et ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Et si on pense qu'on est correct, qu'on est égal avec tous, ben le Seigneur va nous montrer que parfois c'est plus difficile avec certains. Et il s'agit juste d'en prendre conscience pour s'ajuster. Dans chapitre 14, verset 19, Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. J'ai dit 14. Non, je ne sais pas ça. 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Alors, qu'est-ce qui contribue à la paix? Et ce qui contribue pas à la paix, c'est justement lorsqu'on peut avoir des préjugés, des ressentiments, de la tolérance, de la difficulté à être en présence de gens dans nos relations, dans nos rapports. Et premièrement, on va être troublé nous-mêmes dans notre paix. Et on ne pourra pas apporter la paix aux autres. Donc, la paix et l'éducation, en quoi ça pourrait être quelque chose qui est constructif, qui édifie, qui fait du bien, au lieu de faire le contraire, de présenter un ombre, que c'est troublant, que c'est tendu, c'est... Donc, c'est beaucoup dans nos rapports, encore une fois, les uns les autres. 15, verset 5, Romains 15, verset 5, c'est un quatrième point ici. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et comment Christ nous a accueillis? Il nous a accueillis comme on est. Comment il nous a accueillis? Il nous a accueillis alors qu'on n'avait pas au départ d'intérêt envers lui. Comment il nous a accueillis? Peut-être qu'il nous a accueillis à un moment où ce qu'on blasphémait son nom, qu'on y criait après. Peut-être qu'il nous a accueillis à un moment où ce que on était, on lui en voulait. Sans connaître, on l'en voulait pour ce qu'on avait vécu, peu importe. Alors, mais il nous a accueillis, point, hein? Inconditionnellement. Donc, cette dimension ici de s'accueillir les uns les autres, et savoir les mêmes sentiments les uns les autres, de la même manière que Christ nous a accueillis. Donc, ici, 4, 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Au verset 14, Romains, chapitre 15, verset... je suis persuadé que par le Seigneur que Jésus n'est rien d'impur en soi et qu'une chose est impure que par celui qui le croit impur. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, non? Ah, excuse! Pour ce qui concerne mon frère, ok, ben oui, là ça marche, là. Pour ce qui vous concerne, mon frère, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un texte qui dit le cœur est bien disposé, mais la chair est faible? Alors, Paul, il est doux avec les Romains ici. Vous avez certainement de bonnes dispositions, remplies de toute connaissance. Il dit donc, vous êtes capable de vous exhorter. Il n'y a pas un reproche. Il dit, vous avez ce qu'il faut pour être capable de vous exhorter, à même de vos bonnes dispositions, à même de vos connaissances. Alors, c'est comme il y a un enchaînement, une suite dans ça. Est-ce qu'on est bien disposé? Je pense que oui. Est-ce que nous avons des connaissances? Oui. Mais peut-être que ce qui nous manque le plus souvent, c'est l'introspection, le temps de s'arrêter. Le temps de s'arrêter pour réfléchir. Est-ce que on est entré dans une routine? Est-ce qu'on est devenu des gens qui sont religieux ou bien non, on demeure encore avec cette préoccupation d'avoir des relations de qualité avec nos frères, nos sœurs? Il faut qu'il y ait ce type de relation entre nous et que ce soit quelque chose qu'on ait développé, qu'on ait recherché pour favoriser que si des gens se joignent à nous, qu'on puisse être à la recherche de relations qui sont édifiantes qui sont positives. Et enfin, un dernier point aussi. Romains chapitre 16, verset 16. Et pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui était important pour lui, qui va terminer ici. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a adressé un baiser et qui n'était pas saint? Oui, Judas. C'était un peu, c'était hypocrite, hein, mais là, il y avait, mais c'était loin, là, c'était un baiser pour qui était pour trahir, hein. C'est, comme quoi, le dire, c'est juste pour dire, un baiser, ça veut rien dire. Ou ça peut vouloir dire autre chose que la marque d'affection, d'attention qu'on peut avoir. Alors, il dit, saluez-vous, les uns les autres par un saint baiser. Donc, ça veut dire, le baiser, la salutation, va être va refléter la nature de relation, la nature de l'attachement qu'on peut avoir les uns pour les autres. Alors, on revient encore à cette préoccupation, est-ce qu'on vit un attachement les uns vers les autres correct et sans favoritisme? Est-ce que le prix de l'âme de notre frère, de notre sœur, de celui qui est à l'avant, de celui qui est à côté de nous, a la même valeur pour nous que l'autre frère, l'autre sœur avec qui on se tient le plus souvent ou avec qui on est mieux? On a constamment, on a besoin de faire cette analyse-là, de faire cette introspection-là pour pouvoir ajuster nos relations, nos rapports les uns avec les autres. Donc, c'est quelques 7 points. Donc, le premier était de dire aimons-nous les uns les autres. C'est la seule dette qu'on peut avoir. Avoir des attitudes qui sont correctes les uns envers les autres, dans le respect, dans l'acceptation. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de Romains 14, juste pour dire qu'on n'utilise pas le mot accueillir deux fois, alors qu'on le retrouve, quand on dit accueillir, c'est accepter. Ici, c'est d'arriver à accepter. Le premier, aimons-nous sans favoritisme, la seule dette qu'on a, la seule devoir, le premier devoir qu'on a, c'est de s'aimer les uns les autres. Le deuxième, c'est de nous accepter dans nos différences, dans toute notre vie chrétienne, de vie spirituelle, qu'en apparence qu'elle soit plus ou moins spirituelle, peu importe, de nous accepter inconditionnellement, mais c'est un grand défi. Comment on peut arriver à accepter les autres qui sont en dehors de nous? Si on a de la misère à nous accepter nous-mêmes, alors qu'on soit supposé d'avoir amélioré notre conduite, notre comportement. Comment arriver à nous s'édifier mutuellement? Comment on peut arriver à avoir les mêmes sentiments? Comment on peut arriver à s'accueillir, s'exhorter et avoir une relation telle qui se reflète aussi dans nos salutations par le saint baiser. Paul, ça va bien avec l'idée qu'on ne peut pas être indépendant. Paul avait, il y a des expressions qui sont chères pour lui, comme le co-ouvrier, et à la fin de l'épître aux Romains, il va s'adresser à l'un ou l'autre, Priscille, Aquilas, et donc saluez-les, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et puis saluez Epaïnope, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus pour et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent une grande considération parmi les apôtres. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre combien d'œuvre en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé, saluez Apollès qui a été prouvé en Christ, saluez ceux de la maison d'Aristobule, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans la maison, dans le Seigneur, saluez Tryphone et Tryphos, c'est pas des noms qui sont venus encore à mode, hein? qui travaille pour le Seigneur, celui Persède, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, Rufus, l'élu du Seigneur, sa mère, qui est dans aussi la mienne, celui Asyncrite, Phlegon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont en eux, saluer Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olympe, et tous les saints qui sont avec eux, saluez-vous les uns les autres, par un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent. Alors, que l'on puisse réfléchir sur quelle est l'importance, l'attachement qu'on porte les uns et les autres, comment ça pourrait se manifester dans nos attitudes, dans l'attention, une attention soutenue, continue, les uns pour les autres aussi, sans distinction, sans favoritisme. Et comme ça, qu'on puisse persévérer dans la communion fraternelle, dans ce sens-là, qu'on puisse persévérer dans la communion au niveau du pain, qu'on puisse persévérer aussi dans la prière, dans cette optique-là. Et nous verrons certainement que le Seigneur pourrait racheter des âmes. Parce que l'église locale, elle a comme fonction, entre guillemets, bien sûr, d'hôpital, d'appliquer, de donner des soins, de se donner des soins mutuellement. Quand le Seigneur a dit « Je suis venu », comme on a lu ce matin, « Je suis venu pour apporter la liberté aux opprimés, pour guérir les cœurs brisés et blessés », ça, c'est les sentiments du Seigneur, ça. Et on a cette responsabilité entre nous de se donner, de s'accorder des soins, et qu'on puisse se faire confiance aussi pour être capable de partager des fardeaux sans avoir la crainte d'être jugé, qu'on puisse prier les uns pour les autres, se soutenir les uns les autres. Commençons par ce qui se passe à l'intérieur pour renforcer, parce que la force centripète, c'est quelque chose qui a tendance à aller vers le centre, hein, centripète pour centre. Et donc, si on peut mettre ça en place pour favoriser ça dans le milieu, dans notre milieu, dans l'église locale, le Seigneur va pouvoir rajouter des membres, rajouter des personnes qui ont besoin de soins. Mais si on n'arrive pas à cet exercice-là entre nous, comment est-ce qu'il peut arriver à envoyer des gens qu'on ne serait pas capable de prendre soin, et aller pire encore, qu'on pourrait mal accueillir parce qu'on pourrait être plein. Puis, tu sais, je m'examine là-dedans, plein de préjugés. C'est quelque chose. Alors qu'on puisse réfléchir sur ces choses. Notre Dieu, notre Père Céleste, de la même manière, oh Dieu, tu nous as accueillis inconditionnellement, de la même manière, tu as démontré tu nous as acceptés comme on s'est présenté devant toi pour nous offrir qu'on puisse vivre à l'intérieur de nous une paix, hein, une paix profonde, qu'on puisse vivre en dedans de nous comme des fleuves d'eau vive, montrant comment le Saint-Esprit peut agir en nous. Alors, nous avons besoin, oh Dieu, de s'arrêter pour réfléchir à ces choses, pour que ton Église locale ici soit présente des conditions favorables pour accueillir ceux que tu rajouterais. Et c'est en Jésus, nous te prions. Amen.